Donc voilà quelques questions. C'est la vidéo numéro 4 ou l'ensemble de questions numéro 4 pour le chapitre numéro 5. La première question est, je suis très intéressé pour connaître un peu plus profondément ce que vous avez mentionné au regard du fait de couper l'herbe. Je comprends que les moines et les nonnes ne devraient pas faire cela, mais je suis un propriétaire et je me demande si c'est OK de couper l'herbe de mes parents pour eux. Je ne veux pas vraiment faire ça, vu que je ne veux pas tuer d'insectes, mais d'après ce que vous dites, c'est OK pour moi de couper l'herbe pour eux en pleine conscience. Bien sûr, c'est vraiment OK pour vous de couper les herbes. Si vous ne coupez pas les herbes, alors elles vont devenir envahissantes et ensuite votre jardin ne sera plus du tout un jardin. Ce n'est pas complètement vrai que même pour les moines et les nonnes, ils ne peuvent jamais couper l'herbe. Il est dit très clairement dans le Vinaya que quand c'est nécessaire pour eux de couper l'herbe, alors ils devraient couper l'herbe. Mais ils ne devraient pas le faire juste comme ça, ou machinalement, ou sans objectif. Ils devraient le faire seulement si c'est nécessaire, s'il y a un besoin de le faire, alors ils devraient couper l'herbe. C'est la manière dont c'est dit dans le Vinaya. Je pense plus spécialement pour les propriétaires que le Bouddha a même permis pour eux de faire toutes les choses nécessaires pour un propriétaire parce que cela a besoin d'être fait. Donc oui, il est bon d'être en pleine conscience et de faire attention et de prendre soin, de faire attention à ne pas tuer ou à ne pas perturber les animaux ou les êtres autant que possible. C'est ça la compréhension, je pense. La seconde question est, cher Rinpoche, merci pour vos explications très claires et aidantes de ces strophes avec toutes les subtiles différenciations des émotions négatives. J'ai une question à propos de l'orgueil, parce que je pense que dans d'autres enseignements, vous avez indiqué que lorsque les gens de l'Ouest devenaient très autocritiques et qu'ils se vivaient eux-mêmes comme étant mauvais ou comme ne valant pas la peine, il y avait en fait une surestimation inconsciente et sous-jacente de à quel point nous sommes bons et importants. Nous souffrons quand nous ressentons que nous avons échoué à être à la hauteur de cela. J'espère que j'ai compris ça correctement de façon à ce que ma question ait du sens. Ma question est de savoir si c'est la forme d'orgueil trop enflée ou hautaine qui serait à l'œuvre ici, c'est-à-dire un sens de soi exagéré. C'est possible, je pense que c'est possible. J'ai parfois le sentiment que quand les gens disent je ne vaux rien, je n'ai aucune confiance en moi ou je ne vois aucune valeur en moi, je vois qu'il y a un petit peu une sorte d'orgueil qui est impliqué là-dedans. Que j'attende de moi-même d'être si bon. Que quand je ne suis pas au niveau de cette attente, alors vous avez le sentiment que je ne suis rien. Donc je pense que c'est très important d'accepter la manière dont vous êtes. Vous n'êtes pas le meilleur, vous n'êtes pas le plus mauvais, vous êtes comme vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous améliorer. Ça ne veut pas dire que nous sommes mauvais. Ça ne veut pas dire que nous ne devions pas essayer de nous améliorer nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes rien ou que nous ne sommes personne. Je pense que c'est important. Ensuite, la question suivante est, hier, je suis allé au travail avec l'intention de demeurer comme une bûche. si je me trouvais moi-même sur le point de réagir d'une manière négative, alors je parvenais à ne pas réagir. Mais hier soir, j'ai eu un rêve dans lequel j'étais extrêmement en colère et j'ai jeté de l'eau sur quelqu'un. Je pense que cela s'est déjà produit auparavant, c'est-à-dire m'arrêter moi-même, m'empêcher moi-même de réagir d'une manière négative pendant la journée, suivi par un rêve la nuit dans lequel l'émotion négative est expérimentée très intensément. Ma question, c'est comment comprendre cela? Est-ce que le rêve me montre juste que la tendance habituelle est toujours très forte, ou se pourrait-il que ce soit quelque chose de plus positif, comme le début d'un processus de purification? Je ne sais pas exactement, mais je pense que nous devrions essayer de nous exercer à la même chose en rêve également, parce que l'état de rêve de l'esprit montre notre plus profond niveau de réaction. Donc peut-être que vous avez cela très fortement, vous avez cette tendance habituelle très forte de réagir immédiatement d'une manière très forte négativement. Et je pense que c'est cela que le rêve montre. Donc par conséquent, je pense que vous avez besoin de travailler là-dessus, en quelque sorte avec persistance, légèrement, mais avec persistance. Et je pense que si vous pouvez faire cela dans le rêve également, je veux dire demeurer comme une bûche, alors cela signifie que vous avez atteint quelque expérience en cela. Donc, essayez de faire cela dans le rêve également. Merci. Ensuite, il y a, cher Rinpoche, je n'ai pas de questions, mais je voulais juste exprimer mes immenses remerciements pour tous les enseignements que vous nous avez envoyés chaque semaine. C'est un tel privilège d'être capable de recevoir vos enseignements fréquents d'aussi loin. Cette lettre est de la ville du Cap. Plus spécialement pour ceux d'entre nous qui n'ont pas la chance d'être capables de partager vos enseignements en personne cet été. C'est comme si vous étiez assis là, en personne, dans mon salon, transmettant vos paroles de sagesse, qui sont toujours si pertinentes en relation avec la vie moderne, et toujours me rappelant à quel point j'ai à travailler sur moi-même et sur mes réactions habituelles. Donc, merci, merci du plus profond de mon cœur. Avec amour, comme toujours, Annie. Donc, eh bien, merci beaucoup pour m'écouter, moi et les enseignements. Je pense que le Bodhicharya Avatara est un enseignement très important. Et si ça m'aide de parcourir cet enseignement et d'essayer de l'expliquer, je suis sûr que ça aide tout le monde si vous écoutez cela ou si vous lisez le texte. J'essaie de le présenter autant que possible de manière à ce qu'il soit utile à notre époque. Ces textes ont été écrits il y a plus de 1000 ans auparavant. Et en fait, ils sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient à cette époque. Mais bien sûr, les circonstances dans lesquelles ils ont été écrits, la structure sociale de l'époque, la manière dont les gens avaient l'habitude d'être, certaines choses peuvent avoir changé. Donc, nous avons juste à mettre cela dans la bonne perspective. Et ensuite, je pense que c'est très pertinent. Mais je pense que c'est important de faire cela également, parce que c'est ce que le Bouddha a toujours dit. que les enseignements doivent être en fonction des personnes, en fonction de l'époque, en fonction du besoin des personnes et de comment cela peut les aider. Ce n'est pas juste la façon dont je le comprends ou les différents degrés d'enseignement ou les différents types d'enseignement. Ça doit être en fonction des besoins des personnes. Donc, merci pour faire cela. Je suis en fait, je fais en fait plus spécialement cela pour les personnes et pour les lieux où il y a des personnes ou des amis et des étudiants qui aimeraient recevoir des enseignements, pas seulement de moi, mais des enseignements sur le Dharma. Mais ils ne jouissent pas des bonnes conditions, ou parfois ils vivent très loin et dans des endroits où les lamas et les enseignants ne viennent pas ou ne peuvent pas venir, et il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Donc, je donne ces ensembles d'enseignements plus spécialement pour eux. Donc, s'il vous plaît, vous-même et tous les autres, pour ceux qui ne savent pas que cela se produit, s'il vous plaît, informez-les de manière à ce qu'ils puissent en tirer avantage. J'ai rencontré une autre de mes anciennes étudiantes et amies d'une autre partie de l'Afrique. Je lui ai dit, mais elle ne les écoute pas. Elle a dit, oh, ce n'est pas la même chose quand tu écoutes une vidéo que quand tu écoutes de personne à personne. Peut-être que ce n'est pas la même chose, mais peut-être que ça l'est. En fait, si vous écoutez réellement les enseignements, que vous les écoutiez directement ou d'une vidéo, je pense que c'est plus ou moins la même chose. Et ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez me demander, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez, que ce soit sur ce sujet spécifique ou sur quelque chose d'autre. Si vous avez des questions qui ne sont pas nécessairement en relation exactement avec les enseignements, eh bien, vous êtes vraiment les bienvenus. Merci. Ensuite, il y a une autre question ou un autre commentaire. Je fais vraiment écho au sentiment d'immense gratitude pour les enseignements de l'Achèdra tels que les a exprimés avec tant de beauté Annie dans son commentaire plus haut. Merci. Ensuite, Van Horn Marlou. Merci Rinpoche. Certaines personnes ont un talent presque naturel pour demeurer comme un morceau de bois, plus spécialement quand moi j'arrive avec mes émotions d'attachement à l'ego. Ce n'est pas simplement une plaisanterie, à ma grande honte, c'est vrai. Je rougis et je transpire en écoutant les détails de cet enseignement sur l'incroyable guide de Shantideva au mode de vie du Bodhisattva. Mais j'ai aimé vos commentaires de la strophe 45 disant qu'au cas où on prenne soin d'une personne malade ou seule, on puisse s'engager dans des comportements plus sociaux sans avoir trop d'attachement envers eux ou sans trop s'y habituer. Je ferais mieux d'essayer de suivre les bons exemples de ceux qui ne se laissent pas aller à la négativité comme les insinuations, les plaintes, les accusations, etc. Je devrais bien me souvenir des enseignements et les appliquer. S'il vous plaît, acceptez cette petite offrande pour le peuple de Rigoule au Tibet en retour, par laquelle au moins un ami du Dharma et moi, nous pourrons avoir un peu de mérite plus facilement, avec mon amour et mes prières pour votre bonne santé et votre longue vie, Marlou. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour écouter les enseignements et aussi pour les contributions aux personnes de Rigoule. L'école et la clinique de Rigoule se portent en fait très bien. Il y a eu un peu quelques rumeurs disant que peut-être le gouvernement chinois pourrait fermer l'école. Mais jusqu'ici, ce n'est qu'une rumeur et j'espère qu'il n'arrivera rien. Il se porte très bien là-bas. En ce moment, ils construisent des toilettes. C'est la première fois que des toilettes sont construites pour l'école de Rigoule. Je ne sais pas à quel point ces toilettes seront bien, mais ils les construisent. Et l'année dernière, ils ont construit un réfectoire. Jusqu'ici, ils mangeaient dans les salles de classe ou à l'extérieur, donc maintenant, ils ont un réfectoire correct et des tables où ils peuvent manger. Et ces personnes qui ont quitté l'école, qui ont été diplômées de l'école, beaucoup d'entre elles ont rejoint la Chedra comme moines, je pense aux alentours de 40 d'entre elles. Et bien d'autres, y compris des filles, beaucoup de filles se sont orientées vers des études plus élevées, de plus grandes écoles, des écoles moyennes et secondaires ailleurs, un peu éloignées. Donc il semble que l'école soit très aidante. La clinique également est pas mal utilisée. Beaucoup de personnes viennent pour leur bilan de santé et leurs médicaments. Donc merci beaucoup à vous et aux autres personnes qui ont contribué et aidé à ces projets. Comme vous pouvez le voir, nous aidons maintenant depuis un temps important. Chaque année, aux alentours de 30 000 livres, 38 000 euros sont nécessaires pour l'école et la clinique. Jusqu'ici, nous avons été capables de les trouver par vos généreuses contributions. Donc, avec un peu de chance, nous serons capables de continuer. Merci beaucoup.